De retour à On a des choses à dire, présenté par Luciédel, le Parizeau cabinet d'assurance, Meubles André-Beaulieu, le comité des usagers Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
On est de retour et on va s'entretenir maintenant avec quelqu'un qui a été directeur du CLD de Pierre de Sorel. Directeur à l'innovation et développement durable, fameux technocentre en écologie industrielle, qui d'ailleurs dont on va parler bientôt parce qu'ils s'agrandissent puis ils vont faire encore plus. Président du comité responsable de la rédaction du plan de développement durable de la ville de Sorel-Tracy, le fameux Agenda 21. On vous expliquera un petit peu, on va peut-être faire un petit portrait rapide de ce que c'était, parce que ça semble avoir été un petit peu oublié. Coordonnateur de la mise en œuvre de l'Agenda 21, entre 2006 et 2011, ça a été applaudi, entre autres, je lisais un article, un vieil article de 2006 dans Le Devoir qui relatait... la beauté de la chose, la grandeur. On était une des premières villes à adopter un truc comme celui-là. Conseiller stratégique en développement durable pour une société d'État, l'Auto-Québec, et également aussi membre du comité interministériel responsable de l'élaboration de la stratégie gouvernementale de développement durable entre 2015-2020. Ça, c'est entre 2013 et 2014. Monsieur Yves Fortin, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Fortin.
Oui.
Ce matin, ben, premièrement, lors de la marche, on vous a rencontré et vous nous avez signalé justement votre amertume. Je devrais appeler ça comme ça, savoir ce terme-là, face à ce que l'on a fait de votre agenda 21, finalement.
Oui, je pense que, dans le fond, c'est un bon mot, l'amertume. Ouais. Parce que si on regarde le mouvement qui a eu lieu dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010, c'était vraiment un mouvement qui visait à relancer la région avec une vision élargie qui ne se limitait pas qu'une relance, c'était juste une question économique. Et l'ensemble de la communauté, les institutions, les agents de développement économique, la ville, les autres municipalités, il y avait eu une réelle mobilisation pendant presque 10 ans.
Il semblait y avoir une volonté
Il y avait une volonté de changement, mais ça s'appuyait quand même sur un leadership politique qu'on a eu à deux niveaux principalement. Il y a quand même le député M. Simard qui avait joué un rôle dans ces années-là significatif et le maire Marcel Robert qui avait pris un leadership au niveau de la ville pour développer ce qu'on appelle un plan de développement durable, l'Agenda 21.
On parlait de 6 grands défis, 12 orientations, 3 chantiers regroupés avec une belle devise, « Vivre ma ville ».
Absolument, absolument. Et en 2008 et 2009, il y a eu 3 forums qui regroupaient plus de 60 personnes, des intervenants régionaux, de tous les secteurs, là, tous les secteurs. Et on avait peaufiné ces grandes orientations-là pour qu'elles se traduisent en actions concrètes pour améliorer la région, mais aussi, et je le répète, là, c'était pas juste une question économique. Les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux étaient pris en considération pour que chacun y trouve sa place. Or, depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on a vu? Puis, ceux qui s'y intéressent le moindrement le constatent, c'est que le leadership politique localement a disparu. Au contraire, on n'est plus dans un leadership politique, on est dans « Me, myself and I ». C'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on entend, d'où mon commentaire de ce matin.
Permettez-vous que je le lise ou voulez-vous le lire vous-même?
Ben, je vous laisse le lire, je vous laisse le lire.
Alors, Yves Fortin a dit ce matin, ça fait deux heures, donc à 8 heures ce matin ou à peu près, « On peut maintenant dire que c'est officiel avec les derniers événements. La ville de Sorel-Tracy a également son Trump. » Et vous avez mis 3 petits points « et », son Trump « et ». On devrait s'interroger s'il serait pas pertinent d'entreprendre une procédure d'impeachment du maire et de son conseil de mouton. S'il n'allait pas avec le dos de la cuillère ou le dos de la main morte, comme disait...
De la main morte, c'est Jean Perron.
Non, j'y vais pas de main morte parce que au-delà de cet événement-là, je pense que les gens, je me répète, là, mais ceux qui suivent un petit peu l'actualité constatent qu'il y a un certain nombre de bugs. Là. Il y a des choses qui ne marchent plus dans la région, là. Et c'est sûrement pas grâce à M. Péloquin qu'elles vont s'améliorer de la façon dont il travaille depuis un certain nombre d'années. Et il faut que les choses changent parce que c'est toute la région qui est desservie. Et la région, parce que déjà, il y a une dizaine d'années, ce qu'on disait, la région, elle s'inscrit dans un mouvement mondial. C'est pas juste là, la MRC de Sorel-Tracy. C'est pas juste la Montérégie. C'est pas juste Montréal. Il y a des mouvements internationaux actuellement sur les enjeux sociaux, environnementaux, climatiques et économiques, et il faut avoir une vision beaucoup plus large que centrée uniquement sur notre petite portion de territoire.
Vous avez écrit une belle lettre là-dessus qui invite les gens à arrêter de se mettre, je le disais tantôt, de se mettre la tête dans le sable, parce que il faut voir clair dans ce mouvement global où on pense que le développement économique, c'est la panacée, il y a que ça, et qu'on y va à full, à plein gaz, puis on regarde pas justement la production d'effets secondaires sur la nature et l'environnement qui risque de nous rattraper très rapidement.
Absolument. On a vu la semaine passée là, des manifestations à l'échelle planétaire sur les enjeux du climat, puis la jeune porte-parole Greta Thunberg qui exigeait des politiciens qu'ils fassent quelque chose. Et ma lettre, c'est un petit peu une réponse à ça, parce que le titre, je vais me permettre de citer titre.
Allez-y.
Le titre, c'était « Pourquoi les politiciens ne peuvent nous expliquer ou ne peuvent expliquer réellement la question des enjeux sur les changements climatiques? » Et c'est assez simple quand tu regardes ça, là. Si vous regardez tout ce que vous avez autour de vous, tout, du déjeuner que vous avez pris jusqu'à l'auto que vous prenez pour venir travailler, puis votre cellulaire, c'est des machines qui ont produit ça. Or, ces machines-là, il faut les fabriquer et il faut les faire fonctionner, et ça prend de l'énergie. Et à l'échelle planétaire, on est un petit peu moins pire au Québec, mais c'est quand même important, c'est le pétrole. Donc, ce que je dis dans ma lettre essentiellement, c'est que si on n'accepte pas progressivement de réduire notre consommation puis d'acheter des gugus, bien, c'est faux. Il n'y en aura pas de lutte au changement climatique.
C'est un téléphone qui fonctionne, ça peut fonctionner longtemps.
Actuellement, vous avez sûrement changé de cellulaire au cours de la dernière année ou des deux dernières années.
Parce qu'il a arrêté de fonctionner dans mon cas.
Mais c'est un bel exemple, ça, où les choses ont plus de durabilité, ouais. Où aussi on se procure des choses qui sont pas vraiment utiles, puis on a l'impression que notre qualité de vie ou notre niveau de vie s'améliore, mais il me venait un exemple ce matin quand je pensais que j'allais venir ici. Niveau de vie versus qualité de vie. J'ai une belle auto. Ma ville est construite de telle façon que je suis obligé de prendre mon auto pour aller chercher une pinte de lait. Cette auto-là, il faut la construire. Il faut qu'elle fonctionne. Donc, elle prend de l'énergie. Ça, c'est le niveau de vie. J'ai une belle auto neuve. Par contre, si ma ville est construite que je peux faire avoir un dépanneur à deux ou trois coins de rue et que je marche, ma santé va s'améliorer. Mon stress va diminuer, je vais mieux dormir. Ma qualité de vie va s'améliorer. Ouais. Donc, il y a une confusion entre niveau de vie et qualité de vie. Et ça, actuellement, si on résiste autant à diminuer le nombre de petites choses qu'on se procure tous les matins, c'est essentiellement parce qu'on confond les deux.
La population semble être conscientisée de plus en plus, cependant.
Elle est conscientisée. Ben là, je parle beaucoup, là, elle est conscientisée, mais elle ne tire pas toujours les conclusions de qu'est-ce que ça veut dire lutter pour les changements, contre les changements climatiques. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre-là, qui est d'ailleurs apparue à Sorel Tracy Magazine, là, dans l'opinion du lecteur. C'est parce que il va falloir aussi accepter que notre niveau de vie diminue progressivement si on veut que cette planète qui nous offre nourriture, air et eau soit en état.
Il faut modifier notre façon de voir les choses. Il y a des gens qui... Je regarde des pays du nord-est de l'Europe, entre autres, là, ou de les pays de l'Est, là, enfin les pays, comment est-ce qu'on dit ça, les pays scandinaves,
oui.
Qui... Ont pas vraiment une mauvaise qualité de vie, vivent pas pauvrement, ils vivent bien, mais avec justement l'application de plein de fondements, de plein de solutions dont vous parlez, justement d'organiser l'urbanisme en fonction que puis les gens n'ont pas besoin nécessairement d'utiliser leur voiture. Il y a toutes sortes de moyens. Là. Bien sûr, on parle toujours des trois R, le recyclage, la réutilisation.
Réduction,
qui sont appliquées vraiment de façon extraordinaire dans ces coins-là. Je pense qu'on a à apprendre de ces gens-là.
Absolument. Puis, tu sais, c'est une question de culture, finalement. Depuis à peu près, là, sans faire un cours sur la théorie capitaliste, on nous a dit depuis à peu près 2 siècles que le bonheur, c'était de posséder des choses. Mm-hmm. On peut posséder moins et être heureux. Je dis pas qu'il faut pas... Je préconise pas
la... On veut pas revenir dans des huttes
ou des cavernes. C'est pas de ça qu'on parle. Là. On parle d'avoir un niveau de confort raisonnable, acceptable, qui fait en sorte que c'est pas tout notre environnement, puis la qualité pour nous-mêmes et pour nos petits-enfants, puis pas juste pour nos petits-enfants, pour nous-mêmes aussi. Là. Regardez les canicules qu'il y a eu depuis 2 ans. Ça sort pas des nuages. Mmh. Puis ça, là, c'est le résultat des gaz à effet de serre qu'on a émis il y a 25 ans. Pas de ceux qu'on émet aujourd'hui. De 25 ans!
Le problème, c'est qu'on fait des petits pas de souris pour régler un problème qu'il faudrait prendre des pas de géant parce que, justement, les conséquences qu'on vit maintenant datent de longtemps. Donc, si on commence maintenant à modifier notre façon de faire, mais ça va avoir un impact seulement que dans 20-25 ans aussi. Là, c'est ça
absolument,
le problème.
Absolument. Mais il faut commencer tout de suite. Et là, je reviens à l'importance, et dans ma lettre, j'en parle aussi, il n'y a personne d'entre nous, là, soyons francs, là, on n'a pas la volonté individuelle, on peut faire des petites choses, mais des changements significatifs, là, c'est difficile. C'est assez difficile. Moi-même, là, il y a des choses que je trouve difficiles. Par contre, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'elles soient imposées d'un point de vue réglementaire, de politique gouvernementale, pour dire, ben ça se fait plus. Et je vais vous donner juste un exemple, si vous permettez, le dernier. C'est que, actuellement, là, si vous écoutez pendant 1 heure sur votre cellulaire, vous savez, là, les petits films, là, c'est l'équivalent d'un frigidaire, en termes de consommation énergétique, qui fonctionne pendant 1 an. Ça, là, c'est juste parce que vous regardez une petite vue. Si vous regardez Netflix ou les choses Amazon...
Okay, à cause de l'usage des serveurs qui
des serveurs, ça, des centres, etc. Ça fait qu'eux autres, là, il faut les refroidir, ces centres-là. Là. Ça, on le voit pas.
Ouais.
OK? Juste Netflix puis Amazon, là, c'est l'équivalent des émissions à gaz à effet de serre du Chili. Du Chili! Imaginez-vous, d'un pays au complet. Donc, est-ce qu'on va accepter de plus regarder nos petits films sur notre cellulaire ou sur notre TV, Netflix, etc.?
Jamais.
Donc, moi, je pense, je suis même convaincu qu'à un moment donné, il va falloir dire, ben, les émissions 24 heures en ligne, là, c'est fini. Ce qui existe, c'est, il y a des émissions sur 6, 5, 4 heures, 10 heures. Et ça va réduire la consommation énergétique, l'impact du numérique. Mais il y a des dizaines d'exemples qu'on pourrait sortir. Mais je reviens à juste une chose importante, là. On ne peut pas faire ça tout seul. Ça prend de la coopération, ça prend des discussions, ça prend des échanges, ça prend de la solidarité au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Puis des fois, on a l'impression que c'est trop gros. Ça se peut que ça nous apparaisse trop gros. Mais commençons donc par ce qui est accessible au niveau local en termes de collaboration, puis de coopération, puis de solidarité.
Et qu'est-ce qui est accessible au niveau local en ces termes-là?
Bien, je reviens un peu à ce que l'agenda 21 préconisait, tu sais. C'était, il y avait plusieurs choses, donc on touchait à tous les domaines. Mais je voudrais pas rentrer dans des exemples trop précis, mais... Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, on comprend plus la même chose. Ouais. C'est plus les mêmes actions tout à fait qu'il faut poser. Puis la situation est plus urgente aujourd'hui qu'elle était il y a 10-15 ans. Donc, il faut se rasseoir ensemble, retravailler ensemble, les politiques, les milieux d'affaires, le communautaire, les agents socio-économiques, les institutions, et retrouver des solutions appropriées pour notre milieu.
Vous l'avez dit, le législatif a beaucoup à faire là-dedans. Il faut... Parce que personnellement, moi je, demain matin, je m'achèterais une voiture électrique, mais il faut faire en sorte qu'elle soit accessible.
D'une part, puis ça a aussi des limites, une auto électrique, parce que si vous pensez à la fabrication des batteries, si vous pensez à la disposition des batteries à la fin de la vie inutile.
Ça, il faut vraiment s'informer plus avant parce que c'est pas aussi vrai que certains disent pour la tubature. Ça, c'est un autre débat.
Mais, non, mais c'est parce que vois-tu, les sujets, il y en a de nombreux sujets. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Puis, c'est peut-être, il y a une urgence, mais en même temps, il faut prendre le temps de nommer les choses, de s'assurer qu'on les comprend bien. Et que là, on va trouver des solutions qui sont réalistes aussi. Là, faut pas, regarde, là, on fera pas révolution demain matin, entendons-nous, on parle pas de révolution. On parle de se remettre en action au niveau local et au niveau régional et au niveau national.
Monsieur Fortin, merci beaucoup.
C'est un grand plaisir.
Pour tout ce que vous avez fait et ce que vous venez de nous apporter comme message très sage aussi. Et puis, on a tous un examen de conscience à faire, je pense, dans ce cadre-là, parce qu'on doit tous individuellement faire des pas dans la bonne direction.
Mais n'oubliez pas, il faut demander aux politiques de se mouiller.
Absolument, absolument. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. On va parler maintenant de prévention des incendies avec notre prochain invité, Philippe Gascon, après ceci.